Le masque et la plume. Cela fait longtemps que le masque est fidèle à Nancy, et Nancy au masque, c'est presque devenu une histoire d'amour. Alors, je suis heureux une fois encore de dire bonsoir Nancy et bienvenue en public à l'Opéra National de Lorraine pour un masque et la plume consacré à la rentrée littéraire à l'occasion de la 39e édition du livre Sur la place, avec autour de moi Olivia de Lamberterie, Duel, le magazine préféré de Brigitte Macron, Jean-Louis Hésine, le maillot jaune du magazine littéraire, Jean-Claude Raspien-Jas, le bordelais du journal La Croix, et le mousquetaire Arnaud Vivian de Transfuge et patron de Charles, la plus lettrée des revues politiques. On parle ce soir ici à Nancy de trois romans signés Lola Lafont, Sorge Chalandon et Marc Duguin, et de deux documents promis pour des raisons différentes à un grand succès, Sexe et mensonges de Leïla Slimani et un personnage du roman, Le portrait du candidat Macron par Philippe Besson. Tous ces auteurs sont à Nancy, donc faites gaffe si vous en dites du mal les uns et les autres, pour ce grand salon du livre dirigé par Françoise Rossineau, présidé cette année par Jean-Christophe Ruffin et qui accueille 200 écrivains, parmi lesquels Orhan Pamuk et Yann McEwan, des comédiens lecteurs. Il y a Thibaut de Montalembert qui lit Vernon Subutex de Virginie Despentes et Catherine Fraud, le La Fontaine d'Éric Orsenna. Et surtout, près de 150 000 visiteurs. Et puisque, comme chaque année, les académiciens Goncourt font le voyage à Nancy, je ne résiste pas au plaisir de vous demander aux uns et aux autres vos pronostics pour leur prix qui sera attribué le 6 novembre. Olivia, une idée ?
Moi, j'aimerais que ça soit Summer de Monica Sabolo, parce que j'adore ce roman, mais je pense que ce sera Véronique Olmy qui gagnera cette année.
Qui est chez Albin Michel, j'ai oublié le titre de son roman, mais...
Paquita, voilà. Je pense que c'est une année Albin Michel.
Arnaud ?
J'espère que ce sera Yannick Enel pour Tiens ferme ta couronne, chez Gallimard. C'est un livre, un roman gnostique, en fait. Très beau, poétique.
Même un peu apocalyptique.
Apocalyptique, mais franchement, je tiens à ce terme de gnostique.
Bon, voilà. Eh bien, c'est bien. Tu l'auras dit au moins à Nancy. Jean-Louis ?
Celui que j'ai préféré, ce serait Désérable, sur un certain monsieur Picchielny, qui est une histoire littéraire assez fabuleuse, donc tu penses... sur Romain Gary. Non, je ne pense pas qu'il soit goncourable, mais c'est celui que j'ai préféré. Pour le reste, ça m'a dit...
Donc tu ne réponds pas à ma question. Jean-Claude ?
Oui, voilà. Bien, moi, je rejoins Jean-Louis. Je mise sur François-Henri Désérable, parce que je considère...
Chez
Gallimard, parce que je considère que l'auteur n'a pas 30 ans et que les Goncourt s'honoreraient en revenant à l'esprit initial des Goncourt, qui était de récompenser un jeune écrivain. On est à son quatrième livre, le troisième. En tout cas, c'est un écrivain prometteur, et je pense que les Goncourt s'honoreraient à faire ça.
J'aime toujours beaucoup l'expression « les Goncourt s'honorent ».
Les Goncourt se sont honorés l'année dernière en récompensant déjà une jeune femme.
Mais il leur arrive de s'honorer.
Allez, dans le courrier courté de la semaine, Théophile Mégali regrette qu'on ait passé du temps à évoquer l'enfance terrible, déjà lue et relue, des Vaionesco et le pédigré prestigieux de Simon Liberati, leur vie commune et leur... Cantine parisienne, Jean-Louis n'apporte pas grand-chose. Même colère de Daniel Guyot. Trop de temps consacré à Eva Ionesco. Je sais qu'au masque, vous aimez ce genre d'ouvrage. Mais en ce qui me concerne, l'autofiction nombriliste m'exaspère. La littérature, c'est avant tout l'imagination.
Je m'honore de l'avoir défendu.
Et pour Vincent, le livre de Liberati est assez complexe. J'ai dû l'abandonner assez vite, à regret, car j'avais tant aimé Eva. Et puis enfin, Marie Chavez, à propos de Marie Dariussec et de notre vie dans les forêts, ça c'est chez POL, est étonné que cela ne vous ait pas évoqué un livre de Kazuo Ishiguro, Auprès de toi toujours, une histoire de clone humain, un véritable chef-d'œuvre dans le domaine de la dystopie, cher à Jean-Louis, dont notre vie dans les forêts, à vous en croire, ne serait qu'une pâle copie. Allez, on commence avec un livre qui est sorti il y a 2 jours. Exactement, c'est un personnage de roman, le récit que donne Philippe Besson chez Julliard de la campagne du candidat Emmanuel Macron. On pense A priori, à ce qu'a fait Yasmina Reza sur Sarkozy dans l'aube, le soir ou la nuit, et Laurent Binet sur François Hollande, dans Rien ne se passe comme prévu, à ceci près que Besson fut l'ami, d'ailleurs il le tutoie beaucoup, du candidat Macron, et même, à un moment donné, le conseiller, puisqu'il lui donne des conseils, notamment à la veille du débat avec Marine Le Pen. Le livre commence en août 2016, quand le ministre de l'économie présente sa démission au président Hollande, et se termine en juin à l'Élysée, et même au pavillon de la Lanterne, où Philippe Besson rend visite au nouveau président, ce qui est d'ailleurs l'occasion pour Macron de se payer tous les intellectuels en bloc, qu'il traite de vieux instruments, c'est-à-dire Badiou, Onfray, Todd, Finkielkraut, Debray. Et entre ces deux dates, 250 pages de verbatim, de choses vues, entendues, d'éloges, de sympathie. « Tu sais ce que tu vas écrire ?» lui demande Macron. « Un roman d'aventure », répond Besson. 4 mois plus tard, Brigitte Macron lui pose la même question et Besson répond « Il s'agit d'un roman puisque ton mari est romanesque ». Tout est dit. Est-ce que vous avez appris des choses dans ce personnage de roman, Arnaud ?
Rien. Mais franchement, rien. Et d'ailleurs, le peu que j'aurais pu apprendre, je l'ai lu dans la presse avant, puisqu'il y a eu quand même quelques extraits parus avant la parution du livre. C'est un livre franchement sans intérêt.
Moi, j'ai appris que le jour de l'annonce de sa candidature, il s'est rendu presque incognito à Saint-Denis.
Mitterrand faisait ça très régulièrement.
Enfin, là, la basilique des rois de France de Saint-Denis, je ne savais pas.
Non, mais enfin, Mitterrand faisait ça, il y allait très, très régulièrement. Il se met là dans une grande tradition monarchique. Voilà, ouais. C'est la seule chose. D'ailleurs, on va pas l'apprendre. On est de nouveau dans une monarchie présidentielle, républicaine, mais ça, on le sait. Écoutez, ce livre vaut 18 euros. Ceux qui ont perdu leurs APL, en ne l'achetant pas, se rembourseront de à peu près 5 mois d'APL. Quant aux propriétaires, s'ils ne l'achètent pas non plus, ils pourront enlever 5 euros de loyer à leurs locataires. Et je pense que ça, c'est la responsabilité collective.
Olivia.
Ce livre est très mystérieux parce que Philippe Besson a assisté à tous les meetings, est resté en coulisses.
Ah, mais il a même été dans l'intimité.
Était dans l'intimité du futur président et de sa femme pendant un an. Et il n'a rien vu. Mais il n'a absolument rien vu. Alors sans doute, il y a un problème, c'est que ce n'est pas un livre de romancier, bien qu'au début, ils disent « je vais l'appeler Emmanuel M. un peu à la Duras », mais on regrette vraiment la mauvaise foi et les fulgurances de Duras. C'est pas un livre de journaliste, c'est une sorte de résumé de la campagne. Je me souviens, j'avais une première rédactrice en chef à elle. Quand elle nous rendait un papier qu'elle trouvait mauvais, elle disait « c'est plat comme un trottoir ». Eh bien voilà, c'est plat comme un trottoir. Au début, il rappelle une formule de Macron qui avait taclé les grands partis politiques en disant « les grands partis, c'est comme l'amicale des boulistes, mais sans l'amitié et sans les boules ». La formule était drôle. Alors là, j'ai envie de dire, le livre de Besson, c'est « avec l'amitié et sans les boules ». Il n'y a aucun contenu.
Ça, c'est limite, hein, Olivia.
Non. Oh, mais ça, c'est toi qui vois le mal partout.
Bah non.
C'est qu'il n'y a aucun contenu.
Non.
Et pourtant, du contenu, il y en avait. Ce qui a été vécu était formidable. À la fin, il y a un conseiller de Macron. D'ailleurs, il ne donne pas son nom, je ne sais pas qui c'est. Qui, le soir de l'élection, dit « on a réussi un braquage ». Il faut dire qu'on connaissait le proprio, François Hollande, et qu'on avait les plans, ceux de l'Élysée. On a fait comme dans Ocean Eleven, mais on était moins. Donc ce braquage, il ne raconte rien. Sur Macron, je vous promets, vous n'apprenez rien. Vous avez l'impression que tout ça est très très vieux, que François Hollande, maintenant, il dîne chez Paulette avec Julie Gayet.
C'est pas faux.
Que Hamon, il accommode les restes. Que tout ça est de la vieille histoire.
Je vous sens pas très en forme sur ce livre.
Si, on est très très en forme. C'est pas nous.
Vous me comprenez.
Le problème.
En plus, le pauvre livre vient de sortir. Jean-Louis.
C'est un très joli album. Je crois qu'on peut parler d'album quand il s'agit de bande dessinée. C'est pour ça. Réalisé selon un peu l'esthétique de la ligne claire, c'est-à-dire Tintin, quoi, en fait. C'est pas Tintin au pays des soviets, mais. Si on considère la population à laquelle s'en prend beaucoup la figure centrale de ce récit, Macron, c'est-à-dire les journalistes et les intellectuels mêlés, qui sont en général des faibles d'esprit. C'est Tintin chez, au pays des mauviettes, plutôt. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Enfin, alors, cela dit, je dis pas ça pour ridiculiser Besson, parce que c'est pas lui qui sous-traite la réalité. Je pense que la réalité est devenue une bande dessinée, en fait, en quelque sorte, et qu'elle est traitée systématiquement de cette manière maintenant. Alors, j'ai eu quand même quelques petites déceptions en tant que... Besson est tout de même le chroniqueur officiel et enthousiaste du régime, semble-t-il.
Non, ça s'arrête avant. Enfin, ça s'arrête avant le règne.
Si non, mais j'ai dire. Trouvé un certain manque d'ambition, une certaine tristesse. Par exemple, j'ai été très. D'ailleurs, Arnaud a évoqué tout à l'heure le côté monarchie, qui est flagrant aussi. Mais là, je pense que Besson aurait pu en profiter pour essayer de régler de manière définitive la querelle des Bourbons et des Orléans qui nous empoisonne depuis très longtemps. En proposant, par exemple, le couronnement d'Emmanuel Ier à la cathédrale de Reims. Je crois que ça... Je m'attendais au minimum à ça. Et non, que... ça ne vient pas.
Tout à l'heure, je faisais allusion au débat avec Marine Le Pen. Juste avant, donc, Philippe Besson dit à Macron « Lutte contre ton naturel bagarreur ».
J'ai rarement senti comme ça un auteur qui était en lutte contre lui-même. C'est-à-dire, en fait, face à deux thèses absolument antagonistes qu'il doit impérativement... promouvoir, c'est-à-dire la sculpture du héros singulier dans un monde qui est plus du tout singulier, qui est le monde de la transparence, de l'égalité, du mimétisme, etc. Et j'ai rarement senti un auteur comme ça en proie à cet antagonisme. Sauf peut-être, ça m'a fait penser à, comment il s'appelait ce nutritionniste, Michel Montaignac, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Comment maigrir en faisant des repas d'affaires ». Ça m'a, ben voilà.
Jean-Claude.
Non mais quel gâchis, je parle pas de l'intervention de Jean-Louis, hein, mais quel gâchis. Non mais quel gâchis ce livre. Enfin on a un écrivain, en tout cas prétendu écrivain, qui va passer 9 mois dans l'intimité d'un candidat à la présidence de la République qui va stupéfier les analystes, y compris les électeurs, on le voit bien, qui est là, qui est au premier rang, qui est admis dans l'intimité de ce candidat, et qui nous sort un livre d'une pauvreté. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas de style, il n'y a pas de souffle. Il nous le présente comme un héros napoléonien, admettons.
Oui, il y a beaucoup de références à Bonaparte et à Napoléon.
Mais en fait, qui est un calque de ce que lui dit Macron. C'est-à-dire que Macron se projette à la fois comme un héros stendhalien et un héros napoléonien. Pourquoi pas? Admettons, il est là pour regarder...
Enfin, la référence est plutôt Flaubert, c'est l'éducation sentimentale.
Alors ça, c'est madame, ça. Mais lui...
Non, lui aussi.
Oui, lui aussi. Mais bon, lui, il est là. C'est-à-dire qu'en gros, il doit occuper une sorte de position qui serait celle de Victor Hugo et de ses choses vues. Après tout, il est écrivain. Il a ce privilège-là. Et il nous fait quelque chose d'une pauvreté, mais... Et en plus, il faut qu'il intervienne à chaque fois. C'est-à-dire que, tu disais, Olivia, qu'il a rien vu. Il s'est surtout beaucoup regardé, lui-même. C'est-à-dire qu'il encombre perpétuellement le récit de ce qu'il est censé voir, de ses petites préoccupations personnelles, et qui sont pas à une très très haute... Alors, d'entrée...
Bon, vous avez dit l'essentiel, on va peut-être passer à un autre livre, non ?
Non, mais d'entrée, il l'appelle le jeune homme. Le jeune homme, il en fait 20 pages. Il parle du jeune homme. Et puis à un moment, il a cette idée, donc évidemment, il nous met à contribution, il explique qu'il se dit qu'il va pas l'appeler Macron, il va pas l'appeler Emmanuel, parce qu'il passe son temps à se demander à quelle distance il va se placer, jusqu'au bout du livre. Il sait jamais à quelle distance il va se placer, mais ça, il faut le régler tout de suite, Coco. C'est pas... Voilà. Donc il décide, il va faire un truc très durassien, il va l'appeler Emmanuel M. Sauf que, le jour de la déclaration de candidature de Macron, qui est quand même un moment capital dans cette histoire qu'il est chargé d'observer, il continue à l'appeler Emmanuel M, ce qui est absurde, quoi. Alors, il y a quand même, c'est intéressant parce qu'on revoit l'histoire contemporaine des trucs. Ce qui est intéressant, c'est la description de cette force tranquille de ce personnage, que personne n'attendait, qui va tout arracher. On est en effet dans une sorte d'élection monarchique, ça c'est clair, mais c'est au-delà de Macron lui-même. Mais je ne comprends pas, parce que, tout ça pour ça. Si vous saviez le secret qui a entouré ce livre, tout ce qui était préservé, parce qu'on allait voir ce qu'on allait voir, enfin bref.
J'ai compris. Un personnage de roman, c'est chez Julliard. Vous allez vous jeter dans les librairies pour vous le procurer. Et c'est signé Philippe Besson. Un an exactement après avoir reçu le prix Goncourt pour Chanson douce, Leïla Slimani, qui est née à Rabat en 1981, revient à son premier métier, qui est le journalisme, pour Sexe et mensonges, sous-titré La vie sexuelle au Maroc, qui paraît aux éditions des Arènes. Elle a en effet enquêté dans son pays natal et recueilli surtout beaucoup de témoignages de femmes. Elle rappelle notamment qu'au Maroc, comme dans les pays voisins, la loi punit d'emprisonnement L'adultère, l'homosexualité, la prostitution, l'avortement, que la femme est condamnée, dit-elle, à la virginité, avec pour seule alternative l'abstinence préconjugale ou le mariage précoce, qu'un article du code pénal permet au violeur qui épouse sa victime de ne pas être poursuivi par la justice, et que dans ce pays où les imams préconisent la masturbation et où le film de Nabil Ayouch, Much Loved, a été interdit, la frustration, voire, dit-elle, la misère sexuelle peut mener à tous les abus. On a vu récemment d'ailleurs une vidéo circuler sur la toile qui en dit long là-dessus. Bref, Leïla Slimani lève le voile et elle ne manque pas de condamner, je cite, une culture du silence, voire de l'omerta, prêchée par le religieux, confirmée par la loi et imposée par la convention sociale. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre dont on parle également beaucoup, Jean-Claude?
Alors, il faut une précision, ceux qui ont aimé Chanson douce ne retrouveront pas le style de...
Mais j'ai dit d'emblée que c'était un livre journalistique.
Oui,
hein.
certes, mais...
C'est pas un roman.
Oui, certes, mais le livre qui succède au prix Goncourt, on pouvait attendre quelque chose de l'ordre du style. Mais... Alors, c'est un livre en spirale, répétitif, mais ce qu'il dit est essentiel. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait d'effort sur le style, l'effort qu'elle a fait, c'est d'aller à la rencontre de ces femmes qui témoignent d'une réalité... que je crois on soupçonnait pas à ce point-là. Je trouve que c'est un livre important de ce point de vue-là, parce qu'elle prend la suite de la dénonciation de la misère sexuelle qu'avait dénoncé Kamel Daoud, qui lui a valu à la fois d'être traîné dans la boue par les
esprits occidentaux. Kamel Daoud qui a pris la défense et illustration du livre de Leïla Slimani il y a quelques jours.
Et quand Kamel Daoud avait fait cette dénonciation de ce qui s'était passé à Cologne le 31 décembre 2015 ou 2016, la volée de bois vert qu'il avait pris des esprits occidentaux l'avait conduit à renoncer au journalisme et à arrêter d'écrire, de faire du journalisme, parce qu'il avait été assez écœuré par le procès qui lui avait été fait de gens qui ne connaissent pas cette situation. Alors là, avec Leïla Slimani, on retourne aux sources, on va voir un peu ce qui se passe, et les femmes viennent témoigner, c'est-à-dire qu'à la fois elle rencontre des femmes et des femmes viennent spontanément lui expliquer ce qui se passe. Et je dois dire que le tableau est assez terrifiant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le lire. Ça rejoint un certain nombre de films, de livres qui sont sortis cette année et qui parlent de ça. Donc, en fait, le sexe est devenu une obsession permanente et surtout malsaine, et c'est évidemment pas sans conséquence sur les relations entre les hommes et les femmes. On y apprend, moi ce que je ne savais pas, c'est que on retrouve des bébés abandonnés ou jetés dans les poubelles parce qu'ils sont nés de pères inconnus, à cause de la honte sociale qui s'abat sur les mères-filles, que les femmes célibataires et les veuves sont mises au banc de la vie sociale. En effet, que cette obsession de la virginité dont tu parlais est là pour contrôler les femmes avant le mariage, que les femmes ne peuvent pas porter de jupe courte, ne peuvent pas fumer dans la rue, ne peuvent pas manifester leurs désirs. Alors, Leïla Slimani explique quand même que les mentalités évoluent, c'est-à-dire que la révolution dans les pays arabes a permis aussi, il y a eu la révolution dans les pays arabes, l'émergence d'une classe moyenne, les réseaux sociaux, mais il explique que l'influence du wahhabisme, qu'elle appelle un islam sans âme, une idéologie sans culture, prend de plus en plus de place. Elle explique que pour les islamistes, tolérer la liberté des femmes, c'est accélérer la décomposition de l'ordre social, selon eux. Elle tombe sur une chercheuse en théologie.
Il faudrait que tout le monde parle, Jean-Claude, hein,
oui,
parce que si chacun.
Mais il y a une chercheuse en théologie qui lui dit quelque chose de capital.
On ne sera pas arrivé.
Non, juste une chose. Il y a une chercheuse en théologie qui lui dit la visibilité des femmes détermine le degré d'islamisation d'une société.
Arnaud.
Bon, d'abord, donc c'est du journalisme. Je ne savais pas que cette émission littéraire s'occupait de journalisme. Cela dit, ça va être marrant. Parce que si on doit traiter des livres d'Anne Sinclair, de Bruno Roger Petit, de Christophe Barbier, on va bien se marrer, quoi. Hein, je veux dire, si on ouvre au journalisme maintenant cette émission, on va rigoler.
Tu rigoles, c'est du journalisme. Cet été, nous avons parlé, et toi, avec ferveur, des articles de Jean-Paul Dubois sur l'Amérique. Nous avons parlé des articles d'Emmanuel Carrère dans les... Non.
C'est du journalisme. Arnaud, et je vais vous dire, procès. À mon avis, c'est pas du meilleur journalisme.
Ah, autre chose, mais c'est...
Voilà. Elle a eu le prix Goncourt, je doute qu'elle ait le prix Albert Londres pour ce livre-là, quoi. Je veux dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Évidemment, les intentions de ce livre sont bonnes. Mais il y a quand même un problème, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un problème, ce livre est écrit en français. Leïla Slimani est franco-marocaine. Ce livre s'adresse... aux Marocains. Pourquoi n'est-il pas écrit en arabe? Ça vaut très cher un livre français au Maroc. C'est Leïla Slimani qui me l'a dit elle-même l'année dernière lorsque j'ai fait son portrait. Il y a déjà donc un problème, si vous voulez. Je trouve là, d'un point de vue structurel, que ce livre soit écrit en français. Il y a plusieurs autres problèmes. Il y a un problème, c'est que il y a une pauvreté au Maroc. D'ailleurs, quelqu'un lui suggère, c'est en conclusion, un intellectuel lui dit « mais peut-être qu'on pourrait avoir une vision quasi marxiste » de cette misère sexuelle qui renvoie finalement à la misère. Lorsque vous en êtes à chercher les moyens de vivre, de manger, tout simplement. Le fait qu'on ne puisse pas s'embrasser dans l'espace public n'est pas la chose la plus importante. C'est quand même, là, un problème de riches. Et c'est ça, effectivement, la manière dont ça se pose. Donc, il y a une vision, là, je trouve, chez Ilyas Slimani, qui n'est pas profonde, qui est très légère. Il y a des témoignages. J'ai l'impression d'avoir lu d'avoir vu Ballet Masque de Mireille Dumas. Ce sont des témoignages enfilés. Il y a même un roman graphique
qui s'appelle Parole voilà. d'honneur avec Laetitia Corinne aux mêmes éditions des voilà. Arènes.
Pourquoi pas non plus des enregistrements de ces femmes qu'elle a rencontrées avec des musiques de David Guetta. On fait un disque, ça va marcher aussi et ça fera progresser la cause. Je veux dire, il y a quelque chose là, je trouve, de... Alors c'est Ilyas Slimani, moi je l'aime beaucoup, je l'ai défendu, j'étais pour son prix Goncourt. Je trouve que vraiment c'est une très bonne romancière, mais c'est une très mauvaise journaliste, encore une fois. Et puis, si vous voulez, il y a un problème, c'est qu'il y a une personne qui est extrêmement importante au Maroc, et qui n'est cité qu'une toute petite fois dans le livre, c'est le roi. Je veux dire, d'un point de vue constitutionnel, on ne peut pas reprocher au Maroc d'être une société patriarcale, alors que le système même fait que c'est une société patriarcale, avec un roi qui est le chef du gouvernement et le commandeur des croyants. Et personne n'en parle. Aucune femme, dans les témoignages, ne parle du roi. Personne ne le met en cause. C'est un problème journalistique. Et l'autre problème journalistique, c'est que ce que j'ai appris, moi, dans le journalisme, c'est que lorsqu'on fait une enquête, on va parler aux opposants.
Olivia.
Là, il n'y a aucune parole d'opposant.
D'abord, je trouve que c'est un livre qui s'adresse autant aux Français qu'aux Marocains, qui s'adresse, en tous les cas, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à moi. Après, le fait que ce soit un problème de riche, mais quelle drôle d'idée, faire l'amour, pour avoir le droit de faire l'amour, que tu sois une femme riche ou pauvre, le problème est le même. Après, ce qu'elle raconte, elle le fait.
Pas dans le système marocain, où finalement l'adultère est autorisé s'il se passe dans des conditions privées. Si tu es riche et tu as deux appartements, il n'y a aucun problème. Mais
c'est un problème justement qu'elle dénonce, puisque ce qu'elle dit, c'est que quand tu es une femme au Maroc, en fait, ton corps ne t'appartient pas, tu es d'abord la fille de ton père, après une épouse et après une mère. C'est un pays, donc, où les relations sexuelles sont interdites hors mariage. Ce qui devrait être égalitaire pour les hommes et les femmes. Mais évidemment, ça ne l'est pas, puisque le corps de l'homme, c'est bien connu, doit exulter, alors que le corps de la femme, à partir du moment où la femme perd sa virginité, elle perd toute valeur marchande. Donc, la malheureuse
Donc
qui n'est plus vierge...
Donc, on est bien dans un problème marxiste, effectivement. La valeur marchande
la
du corps.
La valeur marchande du corps. Mais ça, elle le dit beaucoup, beaucoup,
non,
beaucoup.
Pas du tout.
Ah si, elle le dit très souvent. Et elle dit qu'un pays qui a pour étendard et pour valeur l'hymen des femmes est un pays pas possible. Elle le dit tout le temps. Je suis désolée, Arnaud. Après, si vous êtes célibataire, puisque... Vous n'êtes plus vierge et donc personne ne veut de vous, puisque les hommes sont absolument ravis de coucher avec des femmes, mais pas d'épouser évidemment celles avec qui ils couchent. Alors là, c'est un chemin de croix également, puisque beaucoup de femmes le racontent, vous êtes une paria, vous êtes invitée nulle part, les femmes ont peur que vous voliez leur mari, et les maris pensent que vous êtes dangereuse parce que vous allez pouvoir donner
mais
des mauvaises idées à leur mari.
Mais ça ne t'a pas dérangé qu'il n'y ait pas une parole d'homme dans ce livre ?
C'est un livre sur les femmes, donc tu pourrais dire aussi ça m'a dérangé qu'il n'y ait pas des femmes esquimaux, c'est sur les femmes marocaines. Donc je ne vois pas pourquoi on est obligé de mettre des hommes partout. Après.
Je suis d'accord.
Donc, écoute. Vient le problème de la maternité. Si vous n'êtes pas marié, donc, si vous avez un enfant, celui-ci est stigmatisé par son nom, donc il y a effectivement 25 enfants qui sont abandonnés par jour. Si vous voulez avorter, c'est évidemment uniquement possible s'il y a des malformations graves ou de l'inceste. Donc au Maroc, aujourd'hui, il y a 700 avortements clandestins par jour. Est-ce que ça ne mérite pas d'être dit, Arnaud Vivian ? Est-ce que ce n'est pas un problème qui concerne surtout les femmes qui, effectivement, n'ont pas l'argent ?
Est-ce que ça ne mérite pas d'être dit en arabe ? Est-ce que ça ne mérite pas.
Mais peut-être que le livre sera traduit en arabe. Ah. Là, je suis à Nancy, on est dans un pays de langue française, je ne parle pas l'arabe et je n'aurais pas pu le lire et ça aurait été fort dommage. Après,
allez, enfin, on reconduit toujours cette même position colonialiste par rapport au
Pas
Maroc.
Du tout colonialiste, parce que je vais finir. Rien Merci. De colonialiste, parce que je vais vous dire là où le livre est encore plus intéressant, c'est que vous avez les discours de sa femme, mais vous avez aussi plein de discours de sociologues ou de théologiens qui essayent de donner des pistes pour essayer de trouver des solutions. C'est tout sauf un livre misérabiliste et colonialiste, et c'est souvent un livre marxiste.
Jean-Louis.
J'ai pas de compétences
En femme
dans ces problèmes-là, mais j'ai...
Mais tu vas nous dire rapidement ce que tu penses du livre.
Alors, rapidement. Je considère le livre comme une... Non, mais quand je disais ça, c'était...
D'Arnaud. L'idée, c'est que tu dis là, en quelques mots, ce que tu penses du livre.
Je l'ai lu, ça m'a pas provoqué de... quelques émotions, tout de même, au nom de tous ces petits bâtards abandonnés, là, vraiment, oui. Pour le reste, c'est plus difficile. J'ai pas d'opinion particulière. S'il avait été écrit directement en arabe, j'en aurais eu encore moins. Mais j'ai trouvé que c'était... C'est un livre édifiant, c'est un livre courageux, c'est une bonne action, donc je pense qu'il faut encourager les bonnes actions, voilà.
Merci Jean-Louis, Sexe et mensonges, sous-titré, c'est parfait, La vie sexuelle au Maroc, c'est Leïla Slimani, c'est aux éditions des Arènes, aux mêmes éditions des Arènes, le roman graphique Parole d'honneur sur le même sujet, signé à la fois Leïla Slimani et Laetitia Corinne. Allez, trois romans, on va aller plus vite. Le jour d'avant, le nouveau roman de Sœur Chalandon qui est chez Grasset, l'auteur de Mon traître et de Profession du père, qui est journaliste au Canard enchaîné, revient sur une tragédie qui remonte au 27 décembre 1974 et descend au fond de la galerie de la fosse de Saint-Amé à Liévin, où 42 mineurs, soufflés et asphyxiés par un coup de grisou, ont trouvé la mort, une catastrophe dont il apparaît presque aussitôt, à l'époque, qu'elle aurait pu être évitée si les consignes de sécurité avaient été respectées par la direction des houillères. Et Le jour d'avant, qui est un roman, hein, attention, ce n'est pas un document, comme les livres précédents dont on a parlé, avec Michel, le personnage principal, qui a quitté le Nord pour la capitale et qui va tout faire, comme son père le lui avait ordonné, pour venger 40 ans plus tard son frère Joseph, qui a été tué dans la mine. Joseph qui est en quelque sorte le 43e mort, puisque Chalandon n'a pas voulu emprunter au destin des 42 gueules noires disparues à Liévin. Jean-Louis, qu'as-tu pensé de ce roman ?
Ah ben, ça m'a rappelé le bon temps.
C'est quoi le bon temps pour toi ? C'est quelle époque ?
Oh, Jean-Pierre Chabrol, tu te rappelles ?
Jean-Pierre Chabrol.
Jean-Pierre Chabrol, le Sèvenol. Les romans de
le
Jean-Pierre
Sèvenol.
Chabrol.
Les Sèvenols.
La barbe de Jean-Pierre Chabrol, ouais. L'accent de
la télé en noir et blanc. Mais on est très très loin des Cévennes de Jean-Pierre Chabrol.
La télé en noir et blanc.
Je ne connais pas Jean-Pierre Chabrol.
Deux chaînes, trois chaînes.
Le prix du roman populiste, le temps des cerises, enfin vous voyez tout ça. Ah ouais. Ça m'a rappelé tout ça. Non, c'est vachement anachronique.
Et le Tour de France de...
Alors là, ça doit être Charles Gaulle ou Louison Bobet. J'ai trouvé ça... Évidemment.
C'est... Non, mais le principe de l'émission, c'est que les critiques donnent un avis sur un livre que j'ai inscrit au programme. C'est une loi qui est vieille de 60 ans.
Non, mais parce qu'on a le choix forcément, parce qu'on est devant un public cultivé, donc on peut y aller. Là, je pourrais vous dire, c'est une hypothypose.
Une quoi ?
C'est une hypothypose. C'est-à-dire, c'est un roman inventé par. Une description frappante d'une scène ou de scènes. Auquel l'auteur n'a pas assisté. C'est ça qu'on appelle une hypothypose.
Ah, c'est ça, une hypothypose.
Je pourrais même ajouter que c'est même une catégorie d'hypothypose qu'on pourrait appeler la prosopopée. La prosopopée, c'est la même chose, mais c'est quand tu fais parler les morts, tu vois. Donc c'est... Voilà. La prosopopée,
là, c'est les deux à la fois.
Les morts dans une hypothypose. Bon, alors, sur le plan littéraire...
Mais c'est destiné...
Ça, c'est fait. Sur le plan littéraire, j'ai dit la chose. Sur le plan de ma lecture personnelle, j'ai trouvé ça vachement anachronique, quoi. Je veux dire, c'est... Ça remonte, quoi. Hein, c'est...
Voilà. Bah, merci de ton jugement. Olivia ?
Écoute, moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'étais dans une école de religieuses. Et alors, on nous donnait la vie des saints racontée aux enfants. Et alors, au début, c'était horrible. Hein, donc, j'étais très émue par le destin de ces petits-enfants. Et puis après... ils avaient des familles affreuses, ils souffraient mille morts, toute leur famille mourait. Et alors, plus ça avançait... Moi, plus j'en tirais du plaisir, je trouvais que j'étais plus du tout émue. Et j'avais une sorte de plaisir sadique à lire ça, parce que c'était tellement édifiant.
Je ne te voyais pas comme ça.
Eh bien, si, tu vois, c'était tellement énorme. Eh bien, là, j'ai ressenti la même chose. Je m'en suis voulu, hein. Mais Chalandon, il charge quand même beaucoup la barque.
Ah, bah là. Le wagonnet, je dirais.
Wagonnet. Il pousse le wagonnet dans les orties. Parce que vous avez un pauvre gars. Bon, il adore son frère. On voit bien que le frère, il va mourir très vite.
Ouais.
La mine, écoutez, je ne suis pas du tout spécialiste.
Là, vous êtes affreux, là.
Non, je ne suis pas spécialiste du tout de la mine. Mais si je devais aujourd'hui, là, maintenant, écrire un roman sur la mine, j'écrirais tout comme Chalandon. Le cœur de charbon, les visages noirs, la mine qui dévore les hommes, comme du bétail, etc. Non. Et alors après, donc, son frère meurt, on le savait depuis le début. Sa femme meurt, alors ça, bon, ok. Son père se pend.
Oui.
Sa mère va pas bien. Excusez-moi.
Vous êtes affreux. Vous êtes
non,
affreux.
Non, mais bon, alors, j'ai quand même continué parce qu'on m'avait dit.
Non, 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 tu fais pas tous les morts du livre. Hein.
Mais je te dis, c'est une prosopopée.
Après, alors effectivement, au milieu du livre, il y a un retournement de situation dingue. Et ça m'a fait penser à ces mauvais polars qui sont très mauvais, mais il y a une fin dingue. C'est en général le plus sympa, le plus gentil qui est le criminel. Non, honnêtement.
Jean-Claude.
Ah non, moi je vais le défendre. Non, là, ce que je viens d'entendre est pénible. Entre le pédant, le cuistre, Ezine, nous faisant le coup de la prosopopée pour ne pas parler du livre. Non, et nous parlant de Jean-Pierre Chabrol, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, comme d'habitude? Jean-Pierre Chabrol, et il ajoute, Jean-Pierre Chabrol, la barbe, le Cévenol, mais quel rapport? Le côté anachronique. Il se trouve que Chalandon, allez savoir, fait un livre dans les années 74. Vous savez quoi, c'est ballot, il parle des années 70. C'est fou, quand même. Et je trouve que son évocation, elle est très bien des années 70, et que ce monde de la mine, du Nord, Pas-de-Calais, me paraît très juste, et pas le wagonnet chargé, comme tu dis. Si vous connaissez un tout petit peu, alors ici vous êtes en Nancy, mais si vous connaissez un tout petit peu ce monde du Nord-Pas-de-Calais, la description en est assez juste. Que la description des mineurs...
Et c'est un bordelais qui vous le dit.
Dans la condition... Ah,
qu'est-ce qu'il en connaît, lui?
Oui, mais qu'est-ce qu'il en connaît? Justement, il se trouve que je connais un petit peu cette région.
Parce
qu'on n'est pas assigné simplement à l'endroit où on est. Il se trouve qu'il peut arriver qu'on ait d'autres vies que celles qui nous ont assignées à notre lieu de naissance, si c'est possible.
Bon. Il a grandi dans les corons de Sarlat, lui.
Donc, alors, je vais pas raconter ma vie, mais il se trouve que j'ai passé un certain nombre d'années de vacances à Neulémine, si certains voient ce que c'est.
Voilà, Neulémine.
À Neulémine, oui.
S'il faut avoir passé ses vacances là-bas pour apprécier le livre, c'est un problème.
On va peut-être pas faire un débat. On va peut-être pas faire un débat sur les conditions, sur les raisons qui m'ont amené à passer des vacances à Neulémine, mais je suis allé sans me vanter passer des vacances dans mon adolescence à Neulémine. Donc je connais un petit peu ça. Mais peu importe mon cas personnel. Ce que fait Serge Chalandon de ce monde est juste. Sur la condition des mineurs, c'est juste. Sur la condition du mineur, le destin qui va de passer d'une fosse à une autre, c'est juste. Et je trouve que le retournement scénaristique du livre, je dis bien scénaristique parce que je vois assez bien le film qui pourrait en être tiré, et c'est pas un reproche, est assez fort. Je le trouve assez juste. Mais toute la première partie, moi je l'ai vécu comme un livre de pulsation. C'est-à-dire que je sentais la pulsation d'un certain rythme dans ce livre que j'ai trouvé assez formidable. Et le retournement est très bien. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, je le recommande.
Arnaud.
Et contre vous.
C'est une tragédie qui a eu lieu en 1974. À cette époque, Serge Chalandon était journaliste à Libération. Et donc il a vécu ça en tant que journaliste. Et il voulait rendre hommage à ses morts, ouvriers. Et il le fait d'une manière, je trouve, absolument magnifique. C'est-à-dire que il reproduit exactement le schéma de la mine. D'abord, c'est difficile d'écrire sur la mine parce que Germinal, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça occupe toute la place littéraire, l'entier, il est là, bien entier. Donc, c'est difficile d'écrire sur la mine. Et il y va justement, il y va à la mine sur Chalandon et il construit, il creuse justement quelque chose. Et puis, aux deux tiers du livre, il y a un vrai coup de grisou pour le lecteur qui est emporté. Et soudainement, le livre devient tout à fait autre chose. Il devient absolument magnifique avec un procès. Mais avec, il y a un moment où l'avocat général plaide pour la compagnie minière. La plaidoirie de l'avocat général, elle est absolument magistrale. Mais vraiment magistrale parce que c'est l'autre côté de ce que pense Serge Chalandon et il assume les deux côtés d'une même pensée, si on veut. Et c'est vraiment un tour de force, je trouve, idéologique de se mettre à la place de à la fois de la victime et du coupable et de plaider dans les deux cas. Et on lit les deux plaidoiries. Et je vous assure que là, pour le coup, il n'y a pas de manichéisme. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort sur le capitalisme aujourd'hui et ce qu'était la mine autrefois. Évidemment, tout ça a disparu. C'est l'ancien monde, comme le disait Ezine. Mais aujourd'hui, les mines, c'est du tourisme. Mais ces morts ont
Chalandon existé. Chalandon, qui a d'ailleurs beaucoup, quand il était à Libération, suivi les problèmes des mineurs en Angleterre, où il a été sous Thatcher, où il a été très souvent envoyé spécial.
Sir Chalandon, qui est un écrivain, un artisan, qui est aussi
mais
encore...
C'est peut-être ça que vous voulez dire en évoquant
Jean-Pierre Chabrol. Ce genre d'écrivain est en voie de disparition lui-même,
le jour d'avant,
comme les mineurs. Sir
Chalandon, chez Grasset, la même année 1974. Patricia Hearst, la petite fille du mania de la presse américaine, qui a d'ailleurs inspiré Citizen Kane, est kidnappée, elle a 19 ans, par un groupuscule révolutionnaire, l'Armée de Libération Symbionnaise, dont elle va, je crois que tout le monde le sait maintenant, très vite épouser la cause, au point de devenir la braqueuse Tania. Lola Lafont raconte ce fait divers quasi mythologique dans Merci Mary Patty chez Actes Sud, un livre à la fois politique, féministe. Alors, en forme de mise en abîme, on aime ou on n'aime pas, hein, avec des tours par un village des Landes où une prof américaine doit rédiger un rapport en faveur de Patty et une adolescente bourgeoise s'apprête, comme Patty, à tourner le dos à son milieu. C'est un peu didactique. Moi, j'avoue préférer de Lola Lafont, la petite communiste qui ne souriait jamais sur la gymnaste Nadia Comaneci, dont le masque, d'ailleurs, avait dit grand bien à l'époque. J'oubliais, bien sûr, les merci et mérites du titre sont deux femmes qui ont été enlevées par des tribus indiennes et tribus où elles ont choisi de rester plutôt que de rentrer dans leur famille. Est-ce que vous l'avez davantage goûté que moi? Tiens, bah Arnaud.
Oui, alors c'est la prisonnière du désert, en fait.
Absolument, c'est le
ces femmes
plus
qui
le syndrome
ont été,
de Stockholm
enlevées par par des peaux rouges. C'est une très belle, d'ailleurs, très belle idée de réunir finalement le destin de Patty Hearst, cette milliardaire enlevée par un groupe révolutionnaire dans les années 60, et ces femmes enlevées par les peaux rouges au 19e siècle. C'est une très belle idée. La construction, effectivement, en poupée russe, on pourrait dire, est assez byzantine. Je suis d'accord. Mais en même temps, cette construction raconte quelque chose. Elle dit quelque chose de la transmission de femme en femme, de génération de femme en génération de femme, d'un destin, justement, qui est de ces femmes enlevées et qui ne sont pas victimes du syndrome de Stockholm, comme on dirait aujourd'hui, mais qui choisissent la cause des gens.
Le syndrome de Stockholm peut jouer quand même, dans certains cas. Hein.
Là, justement, ce qui est très beau, je trouve, dans le livre de Lola Lafont, c'est qu'elle ne reprend pas cette idée du syndrome de Stockholm. Elle est absolument persuadée, en tout cas, c'est ce qu'on lit, que Patty Hearst a choisi son destin.
Oui, absolument. Mais...
Et elle explique très bien, d'ailleurs, moi, je ne connaissais pas, je connaissais évidemment la mythologie autour de Patty Hearst, mais je ne connaissais pas les détails, et notamment la ferveur chez les jeunes qui manifestent en faveur de Patty Hearst, et quand même la manière dont les parents, Hearst, son père, réagit à un moment. Donc il y a une demande de rançon, et quand la demande est trop grosse, son père dit « Ah ben non, ma fille ne vaut pas ça. »
Qui était d'ailleurs,
ne vaut pas ça.
Je disais mania de la presse, mais c'est pas la grande presse.
Et donc,
hein.
À ce moment-là, évidemment, on comprend quelque chose, et là, on retrouve évidemment Lola Lafont, qui est sur des idéaux libertaires depuis qu'elle écrit.
C'est clairement
Et il y a quelque chose de très fort sur le féminisme, là, justement, la condition féminine, et aussi cette idée, comment dire, d'un désamour qu'on va retrouver d'ailleurs dans le livre de Marc Dugain dont on va parler juste après,
si on a le temps.
D'un désamour entre la France et les États-Unis. Je trouve que c'est ça qui est très fort dans ce livre et qu'on voit là en ce moment apparaître, peut-être à cause de Donald Trump, etc., c'est que nous avons une relation là en ce moment de désamour avec les États-Unis qui est très palpable dans ce livre.
Jean-Louis?
Moi, ça m'a fait le même effet qu'un, je sais pas, un documentaire animalier à la télévision, par exemple. C'est qu'il y a Dutronc, il dit la télé, de deux choses l'une, ou bien t'es debout et tu la regardes pas, ou bien t'es assis et tu t'endors. Et je me suis endormi. C'est cet aspect documentaire qui m'a didactique, comme disait le cher Jérôme tout à l'heure, je crois que tu as employé
le
mot. C'est ça qui me gêne terriblement. C'est vrai que Lola Lafont est quelqu'un qui a du talent, dont tu as cité d'ailleurs le dernier titre.
La petite communiste.
Voilà, qui était très plaisant. Moi, J'ai horreur des auteurs qui veulent me démontrer quelque chose. Me le suggérer, peut-être. Me le démontrer, boum, 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 trois fois de suite. C'est ridicule, je trouve, d'avoir regroupé cette thématique. Parce que le cas de la fille du magnat de la presse était suffisant. Elle pouvait faire quelque chose d'absolument merveilleux avec ça. Mais le fait d'en ajouter un autre et un autre, ça veut dire que tu es dans une démonstration. Tu veux absolument être un auteur militant. Il est évident que la cause du féminisme, tout le monde adhère. J'adhère aussi. Mais c'est autre chose.
Même toi,
là, on est dans
toi.
La littérature. Même moi, j'adhère. Oui. J'adhère.
Même un hétéroplo.
Je signe tout de suite. Donne-moi la pétition, je la signe. Mais là, on parle de littérature. Alors là, ça me gêne. Parce que là, on n'est plus dans la littérature. Alors qu'elle avait un cas d'un romanesque absolu, quoi. Et donc, je prétends qu'en effet, c'est une démonstration pour la cause du féminisme et du fameux syndrome de Stockholm. Parce que ces femmes ne se libèrent pas en épousant la cause de leur ravisseur. C'est là le truc fatal, je dirais.
Olivia.
Sur lequel elle aurait pu jouer de manière romanesque. Mais bon.
Non, moi, je suis contente d'être enfin d'accord avec Arnaud parce que je trouve que c'est un livre très beau et très intéressant et très malin. Que le stratagème romanesque est effectivement un peu complexe, mais qu'il est totalement justifié. Parce qu'en fait, aujourd'hui encore, à part Patty Hearst et à part peut-être dans ses mémoires, on ne sait toujours pas, finalement, le mystère de cette femme. Est-ce que cette femme était une traîtresse à son milieu? Est-ce qu'elle a vraiment adhéré à l'idéologie de...
Elle a clairement repoussé son milieu.
Elle a repoussé son milieu, mais est-ce qu'elle a adhéré à la cause de ces révolutionnaires parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était obligée ou pas? Il y a une chose très belle, c'est que Lola Lafont donne la transcription des bandes qu'elle envoyait à ses parents. Et il y a un mot qui revient tout le temps, c'est que Patty Hearst, quand elle s'adresse à son père et à sa mère, elle dit « Je suis vivante ». Parce qu'elle a l'impression qu'on l'a déjà enterrée, que ses parents, à partir du moment où ils ont jugé qu'elle avait trahi son milieu, pour eux, leur fille est morte. Elle ne vaut pas la rançon, c'est ce que disait Arnaud. Et elle, on a l'impression que cette fille, pour la première fois, elle se sent vivante. Et c'est un livre qui raconte finalement la manière dont...
Sans parler de son fiancé, il y a des choses magnifiques. Ah ouais,
parce que c'est une fille qui a été élevée comme une sorte de pur produit du rêve américain, qui a été élevée pour aller chez le coiffeur, pour reproduire le même destin que sa mère.
Une fille de milliardaire.
Et pour avoir des enfants, dans un milieu où on ne lui a jamais montré qu'il existait autre chose que son milieu. Et là, tout d'un coup, cette fille, elle découvre une autre Amérique. Et le fait de raconter son histoire au travers de la vision de trois femmes montre, je trouve, toutes les interrogations qu'on peut se poser à propos de Patty Hearst. Je trouve que c'est un livre très touchant et très réussi.
Jean-Claude.
Une précision, vous employez beaucoup le terme de syndrome de Stockholm, mais il est toujours amputé de la moitié de sa définition. Certes, le syndrome de Stockholm, c'est la façon dont un...
Oui, mais ça on sait.
Non. Mais c'est, mais c'est amputé d'une chose, c'est-à-dire que l'otage prend fait et cause pour ses ravisseurs, mais sachez que le syndrome de Stockholm, dans sa totalité, dans l'acception de ce qu'il représente, c'est aussi l'attachement des ravisseurs à l'otage. Donc je dis ça parce qu'on est tout le temps en train de dire... Je rejoins Arnaud juste sur une toute petite chose, toute petite, c'est sur, en effet sur la description des attitudes et des revirements de Patricia Hearst, évidemment sur l'Amérique des années 70. En revanche, moi je ne comprends absolument pas la forme de ce livre, ni la visée réelle que poursuit Lola Lafont. Je ne comprends même pas la façon dont elle procède. Je vois un livre confus, avec un étrange mode de narration très tarabiscoté. Je trouve que les propos, au-delà de l'aspect factuel, me semblent très convenus. Je trouve que c'est un livre vraiment bancal. Et je trouve que c'est un livre qui souffre d'une absence de style. Et je dois dire que j'avais adoré La Petite Communiste. J'avais trouvé La Petite Communiste étant un très grand livre. Là, je trouve que c'est l'ébauche d'un livre à construire et à écrire, ce qui n'a pas été le cas là.
C'est Merci Mary Patty de Lola Lafont et c'est chez Actes Sud, une poignée, mais toute petite poignée de minutes pour évoquer Ils vont tuer Robert Kennedy, le nouveau roman chez Gallimard du prolifique Marc Duguin. J'ai failli dire Marc O'Duguin. Il est en effet d'origine irlandaise. Et là, l'auteur de La Malédiction d'Edgar se penche sur le cas de Bobby, qui fut assassiné en 68, 5 ans après son frère JFK, dont il était le cadet, comment dire, dépressif. Et surtout convaincu de ce qui allait lui arriver. Duguin imagine qu'un prof d'histoire de l'université de Colombie-Britannique établit un lien un peu obsessionnel, il faut dire, entre le meurtre de Bobby et la mort successive et tragique à la même époque de sa mère irlandaise et de son père qui était un psychiatre spécialiste de l'hypnose, le couple ayant quitté la France pour le Canada à la fin des années 40. Bon, il y a tout Duguin hein, dans ce thriller mental, le trompe-l'œil, la filiation trouble, les complots, les mensonges aussi, beaucoup de mensonges et beaucoup de vérités qui sont cachées dans ce « Ils vont tuer ». Robert Kennedy, je disais, vous allez aller vite, Jean-Claude.
Bah, écoutez, c'est Duguin qui... concentre, précipite ses thèmes habituels. C'est-à-dire que là, c'est voilà, il poursuit. On est dans ses obsessions, c'est-à-dire ses thèmes habituels, c'est-à-dire le dessous du pouvoir, les dessous du pouvoir, le mensonge d'État, la folie de l'Amérique, le monde régi par une armée des ombres qui tire les ficelles de complots toujours discrets, la dérive de l'époque contemporaine asservie aux outils numériques. Il poursuit quand même deux thèses. Il nous explique en gros que les deux frères Kennedy savaient qu'ils cheminaient l'un et l'autre vers la mort et que justement le relais qu'a pris Robert après la mort de John, il savait parfaitement qu'il allait vers la mort. Je trouve que c'est une thèse nouvelle et originale.
En tout cas pour Bobby, c'est une thèse nouvelle.
Oui, originale. Et puis surtout, tout le livre met à mal la version officielle des tueurs solitaires. Il y a beaucoup de considérations autobiographiques de la part de Duguin. Je trouve qu'à la différence de Lola Lafont,
il a compris sur ses origines
sa propre paranoïa, son goût pour le complot, tout ça. Et je trouve qu'à la différence de Lola Lafont, il fait un truc gonflé en mêlant plein de récits différents et qu'il arrive à les agencer de façon très très juste. Et surtout, on découvre chez Duguin maintenant quelque chose qui est établi, c'est que le thème de l'ombre et de la surveillance demeure chez lui une sorte de puits sans fond dans lequel il ne cessera d'explorer plus son obsession
Jean-Louis.
Permanente des frères Kennedy.
Il n'y a pas eu d'hypnose dans mon cas. J'ai bien vu qu'il faisait les gros yeux, l'auteur, et puis qu'il me magnétisait, là, qu'il était dit, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai rien compris, en fait. Je vois bien qu'il s'agit de Robert Kennedy, je vois pas le lien avec les parents, j'ai pas compris ça. Je me suis demandé pourquoi il plaquait cette fiction sur un événement historique, cette relation concernant ses parents sur un événement historique qui n'a pas de rapport direct, sauf de manière très tordue, très psy, certainement. J'aurais préféré qu'il me raconte ses attaches irlandaises, quoi, et puis qu'il oublie un peu le vieil assassinat, là. Non, j'ai pas compris.
T'as pas passé une très bonne soirée avec toutes mes lectures, tout mon programme.
Je suis très heureux d'être là, mais t'as assez bien résumé ce qui a précédé, oui. Je pense.
En fait, oui. Bon.
C'est pas.
Bon, je suis désolé, Jean-Louis. Hein.
Ah, oui,
une
oui.
Prochaine fois, je ferai
oui,
mieux.
Olivia.
Ah ben moi, je trouve que c'est Duguin à son meilleur. Je ne comprends pas tout non plus, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence sur ma lecture parce que
ensemble.
Là, ce que j'ai adoré, c'est le personnage de Bobby, qui est un personnage de roman absolument génial, qui est père de 11 enfants. Qui est en adoration devant son frère et qui couche avec la veuve de son frère. Alors, après, quand je dis ça, maintenant, tout le monde me dit « Mais tout le monde savait que Bobby couchait avec Jackie. » Eh bien, tout le monde, sauf moi. Je ne sais pas.
Moi, c'est pareil, ce Olivia.
Vous avez levé le doigt.
Jean-Louis ne savait pas non plus.
Jean-Louis ne savait pas.
Sauf que Jean-Louis, il s'en fout.
Alors que moi, j'adore. D'ailleurs, je ne savais pas non plus.
Je m'en tape complètement.
Je ne savais pas non plus. Jean-Louis, le savais-tu
non.
Que Jackie avait déjà une liaison avec Onassis quand elle était mariée.
Mais pas du tout.
Ah, du tout.
Pas du tout.
Alors,
Je lis pas les bons journaux.
Et du coup, moi, ça m'a fait très plaisir pour elle,
ouais.
Qui a quand même été une femme trompée toute sa vie. Là, je me suis dit qu'elle s'est vengée.
Voilà, je comprends mon malaise. C'est que l'auteur joue avec des émotions que je serais censé éprouver et que je ne peux pas éprouver par ignorance.
Non.
Allez, un mot, s'il vous plaît.
Et il y a des pages dingues où tout d'un coup, Duguin dit là, il y a quelqu'un qui pourrait avoir un rapport avec la mort de Kennedy. Et d'ailleurs, il y a une espèce de preuve, c'est quand on lui demande où est-ce qu'il était le jour de l'assassinat de Kennedy, il ne s'en souvient plus, alors que tout le monde s'en souvient. Et cet homme-là, c'est George Bush. Non, c'est passionnant, même si on ne comprend pas tout. Je vous jure, ce livre est vraiment génial.
Arnaud.
C'est un livre vraiment extrêmement important. Rendez-vous compte, il y a 5 ans, 2013, Philippe Labro, chez le même éditeur, Gallimard, sort un livre, une enquête, un livre document qui s'appelle « On a tiré sur le président », où il certifie, Philippe Labro, que c'est bien Lee Harvey Oswald qui a tué John Kennedy. Et là, on a un roman, mais en réalité qui est un essai, qui est un roman déguisé en essai. C'est un universitaire qui travaille sur le thème de l'assassinat de John Kennedy. Et on voit bien que Dugin connaît tout le dossier par cœur et qui nous dit très clairement que c'est la CIA qui a assassiné John Kennedy et la CIA qui a assassiné Robert Kennedy. Rendez-vous compte. Alors évidemment, et c'est déguisé sous la forme d'un roman parce que Dugin, il a peur qu'on le traite de complotiste. Mais ce qu'il raconte là est d'abord la vérité, je crois, tout à fait la vérité. Et ça change évidemment radicalement notre vision de l'histoire américaine.
Ils vont tuer Robert Kennedy, Marc Dugin, c'est chez Gallimard. Rapidement, un conseil pour finir cette émission. On va commencer avec Olivia.
Un premier roman, donc, Le Presbytère de Ariane Monnier chez Lattès. C'est une jeune anthropologue qui écrit une sorte de roman gothique. Une famille qui part s'installer dans un ancien presbytère à la campagne. Elle a un enfant, deux enfants, trois enfants, plein d'enfants. Il se passe des choses très très bizarres. C'est un roman terrifiant et je trouve très noir, mais qui raconte beaucoup de choses sur l'époque et sur une famille.
Le conseil d'Arnaud.
Ah bah pour nous, peuple de gauche, l'événement de la rentrée littéraire, c'est évidemment la sortie du livre de Bernie Sanders, Notre Révolution, le candidat malheureux aux primaires démocrates, qui raconte ce qui se passe justement actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'une oligarchie dans ce pays autrefois démocratique. Je vous assure, c'est un livre saisissant. Alors c'est pas de la littérature, mais puisque maintenant on sait ouvert aux journalistes et tout.
Alors,
ça, on peut y aller carrément. C'est un livre très important, là encore, historiquement, dans nos rapports avec les États-Unis. Notre Révolution de Bernie Sanders. C'est pas lui qui a copié, c'est Macron qui a copié le titre sur Bernie Sanders, qu'il l'avait écrit avant.
C'est chez qui, Arnaud ?
Les liens qui libèrent.
Les liens qui libèrent. Mon conseil, un livre qui m'a bouleversé, De l'ardeur, de Justine Augier. C'est chez Actes Sud, un portrait de Razan Zetouné, une avocate syrienne et militante des droits de l'homme qui a été enlevée à Douma en 2013 par un groupe armé salafiste. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Et depuis Beyrouth, où elle habite, Justine Augier a mené une enquête un peu à la manière, je trouve, d'Emmanuel Carrère. C'est-à-dire à la fois subjective et opiniâtre. Très beau livre et très beau personnage, pour le coup. Ça n'est pas un roman, c'est un document. De l'ardeur, et c'est Justine Augier. Le conseil de Jean-Louis ?
Oui, alors bon.
Oui, bonjour, bonsoir.
Bonsoir. Évidemment, j'ai rien trouvé de recommandable dans la catégorie des premiers romans. Aussi, pour dissiper le malaise qu'aurait pu vous procurer ce programme opaque ce soir, je vous souhaite de lire La Société de Transparence au PUF. Ça vous explique le monde dans lequel on vit. Et puis, si vous voulez comprendre quelque chose à Besson sur Macron, ça vous dit tout. La Société de Transparence, c'est d'un philosophe allemand qui s'appelle Byung-Chul Han. Au PUF, c'est tout petit. Vous voyez, c'est pas excessif comme recommandation. Il y a 90 pages, mais vous allez tout comprendre.
Le conseil pour finir de Jean-Claude.
Alors, ce n'est pas un premier roman, c'est un dernier roman d'un auteur qui est vivant, mais qui écrit de façon post-mortem. Enfin, je m'explique.
Mais vite.
Ça s'appelle « Mon autopsie » par Jean-Louis Fournier. Vous connaissez Jean-Louis Fournier. Et là, il a décidé de donner ses organes à la science. Et il imagine ce qui se passera le jour où il sera mort. Et il sera sur la table froide de la morgue. Et quand on va commencer à lui prendre les organes les uns derrière les autres. Donc il tombe amoureux de la dame qui vient le prélever, qu'il appelle Égoïne. Et il aime... Il la trouve tellement jolie.
Raffinée.
Parce qu'elle elle ne peut pas savoir que lui la regarde. Mais du coup, il regrette encore plus d'être mort. Il revisite toute sa vie. C'est comme toujours chez Jean-Louis Fournier. C'est absolument génial. C'est à la fois hilarant et terriblement poignant.
Tous ces conseils, vous les trouvez, même celui de Jean-Claude, sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Jean-Louis Hézine et Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir à l'Opéra de Nancy, à la technique, et je les remercie, il y avait Hervé Dubreuil, Frédéric Kérou, Sébastien Huel et Stéphane Beaufils, chargé de production Franck Malabry, et j'ai même oublié Daniel Louison. La réalisation était signée Didier Lagarde. Et notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 21 septembre. Je vous attends à 20h, nombreux, comme ici, au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre au livre. La semaine prochaine, on parlera de films. Je vous dis donc à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.